France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Swad Boukorsa, Xavier Atto et Olivier Dehay. Voici la troisième émission de notre série consacrée au violoniste américain Michael Rabin, disparu il y a un demi-siècle jour pour jour le 19 janvier 1972 à l'âge de 35 ans. Rabin que nous allons entendre aujourd'hui dans des œuvres de Brahms, Bach, Prokofiev, Chemanovsky, Saint-Saëns, Massenet, Sarrazade, Bruch, Isaïe ou encore Fritz Kreisler. Et nous commençons avec une œuvre qui a inspiré de nombreux compositeurs comme Franz Liszt, Sergei Rachmaninov, Brahms, Lutosławski ou encore Benny Goodman. C'est le 24e et dernier caprice de Niccolo Paganini.
Thank you.
Sur un violon Guarnerius del Gesù de 1735, le Kubelik, Michael Rabin avait enregistré à la fin des années 50 les 24 Caprices de Paganini. On en avait écouté trois lundi dernier. Ici, c'était le 24e et dernier Caprice de l'opus 1 qu'on entendait dans l'interprétation de Michael Rabin, à qui le violoniste américain Isaac Stern, comme disent les Américains, avait rendu hommage à ce micro pour Alain Paris, pour une émission sur France Musique qui a été enregistrée et diffusée en 1995. Michael Rabin fut pour moi le plus grand talent qu'on ait connu aux États-Unis depuis 50 ans. Il possédait un extraordinaire contrôle instrumental et il était doué d'une perception musicale rare. Il a été beaucoup plus précoce que moi. Je l'ai entendu 2 ans après ses débuts. Sa présence sur scène était déjà formidable. Il avait une intonation absolument parfaite et un jeu dans la corde. Je n'avais jamais entendu cette sûreté depuis Heifetz. Son jeu était assez exalté, mais sans arrogance. Il a été célèbre très tôt, sans doute trop vite poussé dans la carrière par ses parents ou par ses professeurs. C'est peut-être pour cela qu'il a connu des difficultés personnelles. Il n'était pas heureux, mais on ne le sentait pas dans son jeu. Fin de citation. Alors, cette mélancolie cachée ou cette joie officielle, la voici de nouveau dans une partition de Paganini. C'est un mouvement perpétuel arrangé par Fritz Kreisler. Thank you. L'orchestre symphonique de Hollywood Bowl, dirigé par Félix Slatkin, suivait les élucubrations et les pirouettes et les galipettes de Michael Rabin dans ce mouvement perpétuel de Paganini, arrangé par Fritz Kreisler. Voilà un enregistrement qui a été réédité récemment, sorti en disque l'année dernière, enfin il y a deux ans, en 2020. Chez Scribendum Recordings, 14 compact disques consacrés à Michael Rabin, que nous avons retrouvé dans le concerto de Brahms. Nous écoutons au cours de ces trois émissions l'intégralité de l'opus 77 de Johannes Brahms dans trois versions différentes. Lundi, on a écouté le premier mouvement avec l'orchestre de Chicago et Raphaël Kubelik. Hier, c'était le deuxième mouvement, le mouvement lent, avec l'orchestre de San Diego, dirigé par Zoltán Rozsnyay. Voici donc le final. Michael Rabin nous permet de retrouver cet orchestre de radio, le Bell Telephone Hour Orchestra, dirigé par Donald Voress. Nous sommes là le 13 juin 1955 et pour nous mettre dans l'ambiance comme si nous écoutions la radio au fin fond de la Pennsylvanie, voici tout d'abord le speaker de l'époque.
Now with Donald Voorhees and the Bell Telephone Orchestra, our soloist plays the brilliant finale from Brahms' Concerto in D Major. Mr. Rabin. Thank you.
Donald Voorhees dirigeait l'orchestre de The Bell Telephone Hour pour accompagner Michael Rabin en 1955. Il avait 19 ans, le violoniste, lorsqu'il jouait ainsi le final du concerto de Brahms, l'opus 77 en ré majeur. Des applaudissements qui ont été suivis, bien sûr, d'un bis. On peut s'imaginer, pourquoi pas, que ce soit un extrait des sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach. D'ailleurs, en 1955, en cette année 55, Michael Rabin avait enregistré la troisième et dernière sonate. C'est l'opus, non pas l'opus, mais le BWV 1005 de Jean-Sébastien Bach, dont voici la pièce finale, Allegro assai. Un extrait des sonates et partitas de Jean-Sébastien Bach, l'Allegro assai conclusif de la troisième sonate, c'était Michael Rabin en 1955.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Michael Rabin qui, à la fin de sa vie, se plaignait de ses impresarios, ou impresaris si l'on préfère, qui lui demandaient de jouer presque toujours les mêmes choses, des partitions de virtuosité démonstrative, des œuvres de Paganini ou de Wieniawski. Il se sentait frustré de ne pas enregistrer ou jouer en concert des œuvres plus marquantes, plus majeures, comme le concerto de Beethoven. Et Michael Rabin a fait également appel à des compositeurs. Alors certes pas des plus grands compositeurs du XXe siècle, ce sont des compositeurs un peu mineurs et oubliés, comme ce Richard Mohaupt, ou encore ce Paul Creston, compositeur américain né à New York en 1906, qui était autodidacte et qui a notamment formé John Corigliano. Paul Creston a écrit son deuxième concerto pour violon pour Michael Rabin. En voici un extrait sous la direction de Georg Scholti.
Thank you.
D'habitude, on veut créer le buzz. Eh bien, merci à notre technicien Xavier Hatto d'avoir atténué ce buzz, ce ronflement qu'on entend dans ce médiocre enregistrement du deuxième concerto pour violon de Paul Creston. Mais je n'ai pas résisté au plaisir de vous faire entendre Michael Rabin avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles dirigé par Gerd Scholti. Voici un enregistrement un peu plus digne de vos oreilles d'un point de vue technique. C'est la fantaisie de concert que Pablo Lessarazate avait composée sur Carmen de Georges Bizet. Une partition que Michael Rabin enregistre dans sa version violon et piano avec le pianiste Lothar Brodack. juin 1969, Michael Rabin était à Berlin pour une tournée de concert et il en avait profité pour enregistrer quelques partitions de chambre avec le pianiste Lothar Brodack, comme cette fantaisie de concert pour violon et piano de Pablo Sarasate qui nous permet de retrouver avec bonheur les différents thèmes de Carmen, du Carmen de Georges Bizet. Voici de nouveau Michael Rabin concertiste avec l'Orchestre Symphonique de Chicago, dirigé par André van der Noot, qui va nous permettre d'entendre le mouvement central, que je trouve une très grande poésie, de ce second concerto pour violon de Sergei Prokofiev, partition que Prokofiev avait conçue juste avant de quitter définitivement l'Ouest, la France, pour s'installer avec sa famille en URSS, pour retrouver son sol natal. C'est en 1935 qu'il avait écrit cette partition, créée par Robert Swetens, et c'était à Madrid, donc en 1935. Voici cet Andante assai, mouvement central de l'opus 63 de Prokofiev par Michael Rabin sur France Musique. Thank you. C'est en public en juillet 1968 au festival de Ravinia que l'Orchestre symphonique de Chicago dirigé par André van der Noot proposait le second concerto pour violon de Sergueï Prokofiev avec le soliste Michael Rabin. Et on n'en a pas tout à fait terminé avec Prokofiev.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
La célèbre marche de l'amour des Trois Oranges, opéra de Sergueï Prokofiev, qui avait conçu cette partition pour orchestre. Et cette version violon-piano, on la doit à Yasha Heifetz, que les parents de Michael Rabin avaient consulté au début de sa courte carrière, mais sa prestigieuse carrière, pour lui demander quelques conseils. Et donc c'est cette adaptation de Yasha Heifetz que Michael Rabin jouait ici avec le pianiste Léon Pommers. Restons et avec ce répertoire violon-piano pour retrouver le pianiste Lothar Brodack avec lequel Michael Rabin avait enregistré plusieurs œuvres en 1969 à Berlin, notamment les Mythes opus 30 de Karol Szymanowski, la mythologie grecque passionnée, le compositeur polonais qui s'était rendu d'ailleurs dans plusieurs endroits de Méditerranée pour se baigner, s'imprégner de cette ambiance mythologique et ensoleillée. C'est ce qu'on entend dans cette partition de 1915 en trois mouvements avec Narcisse, Dryade et Pan, et puis surtout avec le premier mouvement qui s'appelle La Fontaine d'Arétus. Arétus est une nymphe de la suite de Diane qui se baigne dans les eaux du fleuve Alphée, qui est un dieu qui est amoureux d'elle et qui la poursuit, métamorphosée en chasseur. Alors Diane change Arétus en une source souterraine et Alphée va mêler ses eaux à celle d'Arétus. Voilà une histoire très érotique et une musique également très érotique, celle de Karol Szymanowski, que Michael Rabin interprète ici avec Lothar Brodack.
Thank you.
La Fontaine d'Arethuse. Voilà le titre du premier des trois mythes, opus 30 de Karol Szymanowski, par Michael Rebin et Lothar Brodak au piano. Michael Rebin, qu'on retrouve encore avec cet orchestre de la radio, Bell Telephone Hour, dirigé par Donald Vores, pour un arrangement du grand violoniste Eugène Isaïe. Il s'agit de l'étude en forme de valse, qui est la sixième des six études opus 52 de Camille Saint-Saëns, partition qui est extrêmement virtuose pour les pianistes et qui est quand même une partition assez jouée, très souvent interprétée dans les concerts, dans les récitals. Et ce caprice nous permet de retrouver cette partition, mais avec le violon de notre héros de ce début de semaine.
Michael Rebin, with Donald Voorhees and the Bell Telephone Orchestra, now plays Caprice after the Etude in form of a waltz, opus 52, number 6. Mr. Rebin. Thank you.
Michael Rabin avec l'orchestre Telephone Howard Bell dirigé par Donald Voorhees. C'était ce caprice de Eugène Isaïe d'après l'étude en forme de valse, opus 52, numéro 6 de Camille Saint-Saëns. Voici maintenant un des grands classiques du répertoire du violon, c'est la Méditation de Thaïs de Jules Massenet, une partition qui vient là encore de l'opéra, tout comme la Fantaisie de Carmen qu'on écoutait tout à l'heure. C'est en 1894 que Jules Massenet a conçu son opéra Thaïs, d'après un roman d'Anatole France. Thaïs, c'est une courtisane, une prêtresse de Vénus qui va se convertir au christianisme sous l'influence d'un moine, Athanaël. Ce moine, lui, au contraire, va s'éloigner de la foi par passion amoureuse, en tout cas il va s'éloigner de son sacerdoce, et c'est au deuxième acte de cet opéra de Jules Massenet qu'on entend la fameuse méditation religieuse, la méditation de Thaïs, que les violonistes, dans leur jargon irrespectueux, surnomment parfois la lévitation du maïs. Une blagounette qui ne manquera pas de faire rire une fidèle auditrice et violoniste de talent, mademoiselle Louise Roger, qui travaille cette partition en ce moment, je la salue. C'est quand même bien beau cette lévitation du maïs, enfin cette méditation de Thaïs de Jules Massenet avec ici Michael Rabin et l'orchestre du Hollywood Bowl dirigé par Félix Slatkin. Tout à l'heure, on avait entendu la fantaisie de concert sur Carmen de Pablo Lesarrazade. Voici une autre fantaisie qui avait été justement écrite pour le violoniste espagnol. Il s'agit de la fantaisie écossaise du compositeur allemand Max Bruch, qui n'a jamais mis les pieds en Écosse, mais qui s'est inspiré de chants qu'il a pu lire sur des partitions ou entendre, pourquoi pas, d'écossais de passage en Allemagne. Cette fantaisie écossaise, nous écoutons le final qui recense quelques-uns de ses thèmes mélodiques, notamment le fameux Scotswahe, qui est une sorte d'hymne officieux des Écossais sur des paroles de Robert Burns. C'est toujours Michael Rabin, cette fois-ci avec l'orchestre Philharmonia, dirigé par Sir Adrian Boult, que nous écoutons sur France Musique.
Thank you.
C'est à Londres, en 1957, que Michael Rabin avait enregistré, avec l'orchestre Philharmonia dirigé par Sir Adrian Boult, la fantaisie écossaise opus 46 de Max Bruch, dont c'était le final. Michael Rabin, qui est un des rares violonistes à cette époque, a enregistré les sonates pour violon seul d'Eugène Ysaÿe, qui sont devenues des classiques du répertoire des violonistes. Ces partitions de 1923 ont entendu un peu de temps avant de se faire de la place dans le répertoire. D'autres violonistes, certes, l'ont joué à l'époque de Michael Rabin, mais c'était assez rare pour être remarqué. Donc il y a 6 sonates que Eugène Ysaÿe a conçues pour violon seul et qu'il a dédiées à certains de ses collègues comme Joseph Ligeti, Jacques Thibault, Fritz Kreisler ou encore Georges Enesco. C'est à lui que la troisième ballade, est dédiée. Cette troisième ballade, la voici, c'est en ré mineur, l'opus 27 numéro 3 d'Eugène Ysaÿe.
Thank you.
magistral Michael Rebin en 1955 dans la troisième sonate de Jean Isaïe, l'opus 27 numéro 3 de cette série de six sonates, dédiée celle-ci à Georges Enesco et intitulée Ballade. Nous allons terminer sur une atmosphère plus détendue, je dirais plus relaxe, pour annoncer dans quelques instants Lionel Esparza, avec en 1961 un enregistrement du Tambourin chinois, opus 3, c'est l'une de ses pièces de salon composées par le grand violoniste viennois Fritz Kreisler. Michael Rebin est ici accompagné par un pianiste qui s'appelle Brooks Smith et que connaissent bien les amateurs de Yasha Heifetz, le grand Yasha Heifetz dont il a été question tout au long de cette série, puisque c'est Brooks Smith qui a accompagné au piano l'immense violoniste dans les années 50-60. Voici donc Tambourin chinois de Fritz Kreisler. Tambourin chinois de Fritz Kreisler, c'était Michael Rebin au violon et Brooks Smith.
À réécouter sur francemusique.fr.